Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personnalité, d'un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre en son temps. Et pour cause, il n'était pas moins que le favori du roi Louis XVIII. Favori, mais pas seulement. Il était également ministre, ministre de la police, puis de l'intérieur, penseur politique, industriel. Dans son histoire de la Restauration, Lamartine dit à son sujet, je cite, « Son nom restera dans l'histoire au-dessus des noms des favoris vulgaires qui ne représentent que les caprices des rois. Monsieur Descazes représente une idée juste, la réconciliation d'une révolution et d'une royauté. Il fut l'homme d'État de la concorde, de l'impartialité et de la charte. » Les travaux historiques sur Élie Descazes, malheureusement, ne suivent pas forcément le propos de Lamartine, car les biographes sont bien peu nombreux à s'être penchés sur cette figure. Et pourtant, sa vie peut nous en apprendre beaucoup sur la France du début du XIXe siècle. Je suis heureuse aujourd'hui de recevoir François de Coustin, qui vient, lui, de publier la biographie d'Élie Decazes aux éditions Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes peu nombreux, les biographes d'Élie Decazes. Et avant qu'on parle de la carrière de cette personnalité, mais pas seulement, également de sa jeunesse et puis de tout ce qui s'est passé après sa vie politique auprès du roi Louis XVIII, j'aimerais vous poser une question assez générale sur les favoris. Sur la place des favoris dans les gouvernements, quand ils apparaissent, vous expliquez dans votre introduction qu'un favori est moins accepté qu'une maîtresse auprès du roi, car la maîtresse l'inspire et en quelque sorte un petit peu s'amuse, alors que le favori dévirilise le roi. Donc en fait, le favori est souvent critiqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette figure du favori à travers l'histoire ?
Il y a une très jolie phrase de l'abbé de Montesquieu en 1814 qui dit « Les Français pardonneront toutes ses maîtresses à un roi, mais jamais un favori ». Et quand on voit dans l'histoire les favoris qu'ont pu avoir les rois, on pense aux mignons d'Henri III, on pense à Saint-Marc, par exemple, pour le roi Louis XIII, c'est les noms qui me viennent plus facilement à l'esprit, il y a toujours le sentiment qu'un homme vient prendre un pouvoir auprès du roi, une influence qu'on tolérerait auprès d'une femme, qu'on ne tolère pas auprès d'un homme, alors que ces hommes n'ont pas de rôle politique défini. Ils sont dans l'entourage du roi, ils sont comme des amis, mais finalement ils posent la question de savoir si un souverain, ça peut être un président de la République, hein, après tout, a le droit à l'amitié, à une amitié exclusive. Je reprends le terme d'amitié particulière, non pas dans le sens d'amitié homosexuelle, mais l'amitié particulière était fustigée par la religion parce qu'elle détournait de Dieu dans le sens où il y avait une élection particulière pour un ami qui faisait que l'homme ne pouvait pas s'intéresser à d'autres amis, l'homme ou la femme, puisque les amitiés particulières étaient défendues à tous les sexes. Et je pense qu'on reproche au roi qui a un favori d'élire quelqu'un et donc de ne pas s'occuper de tous les autres. Les femmes, on sent qu'il y a un usage différent, ce qui n'est d'ailleurs pas à l'honneur de l'image qu'on donne ainsi des femmes. Et ce qui est très intéressant dans le cas de Louis XVIII, c'est que quand les ultras arriveront à faire tomber Decazes, sentant que Louis XVIII avait besoin d'un support affectif, ils mettront une femme, j'allais dire dans ses pattes, mais une femme près de lui, qui sera, elle, la dernière favorite. Donc, mais ça ne sera pas un homme, et surtout, ça ne sera pas ce qui est le cas de Decazes, qui est très fascinant dans toute l'histoire des favoris, c'est le seul favori qui a eu des fonctions politiques de premier plan, ou c'est le seul ministre qui a été favori.
Puisque juste avant lui, il n'est pas le premier favori du roi, il y a Blacas. Comment est-ce que vous résumeriez la relation entre Louis XVIII et Blacas et pourquoi l'avoir choisi lui ? On verra que c'est pas du tout la même origine en fait et le même parcours.
Non, c'est pas le même parcours et Blacas, lui, suivait déjà un autre qui était Davaret. Ce qui veut dire que Louis XVIII avait vraiment besoin d'une amitié précise, particulière, d'un confident, de quelqu'un sur qui se reposer, parce que son entourage, sinon, d'abord sa famille, quand il était en exil, il n'y avait pas de famille autour de lui, il avait son neveu, le duc d'Angoulême, mais qu'il formait à son métier de futur roi, il n'avait pas son frère, avec lequel, par ailleurs, les rapports ont toujours été un peu complexes, donc il y avait ce besoin d'un ami, donc Davaret était déjà un favori extrêmement puissant dans l'entourage de Louis XVIII. À sa mort en 1810, c'est Blacas qui prend ce rôle. Et Blacas, en 1814, est très vite éliminé. C'est-à-dire que tout le monde se rend compte que Louis XVIII a quelqu'un près de lui qui a un fort pouvoir, parce que Blacas était en plus quelqu'un... Alors lui, c'était un aristocrate très introduit dans tous les milieux de l'émigration. Manifestement, on s'est dit, celui-là est dangereux, donc... On a réussi à le faire partir. Il a été envoyé en ambassade à Rome. Et personne n'a vu venir le successeur. Parce que personne à ce moment-là ne s'est dit, si on enlève à quelqu'un, à ce roi en mal d'affection, il va trouver quelqu'un d'autre. Et effectivement, il a trouvé Decazes.
À la différence de Blacas, Decazes, lui, n'est pas quelqu'un de particulièrement introduit dans le monde. Et d'ailleurs... Maxime Tringant de Latour, qui est donc le neveu de Decazes, dit que Madame la Duchesse Decazes trouve trop humble la jeunesse de son mari. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors les Decazes sont une famille extrêmement ancienne. C'est un nom du Libournais. Il y a des Decazes dans l'histoire de Libourne, et notamment des maires de Libourne, des Juras, puisqu'il y avait une Jurande à Libourne. Est-ce que Decazes en descend, la famille le prétend ? Est-ce que c'est le cas ? C'est un peu moins sûr. En tout cas, les Decazes sont de bonne roture. Ce sont des hommes de droit. Le père de Decazes, Michel Decazes, est notaire. Notre Decazes, lui, Élie, fait des études de droit, comme son père, mais lui se destine à être juge. Donc on est dans une famille, ce qu'on appelle des familles de Robin, qui ont un petit rôle politique à Libourne, mais ce sont des gens de Libourne. Et notre Decazes, lui, est le premier qui monte à Paris. Il monte à Paris en 1802 pour commencer une carrière de juge. Et il va... Comment ? Alors, ce n'est pas très très clair, parce qu'il va faire une excellente une rencontre très forte. Il va rencontrer le premier président de la Cour de cassation, Honoré Murer, dont il va épouser la fille. Et alors ça, c'est un des mystères que j'ai pas réussi à élucider. C'est comment le premier président de la Cour de cassation, qui avait marié une autre de ses filles au fils du président de la Cour des comptes, marie sa deuxième fille à un petit juge, sans, je dirais pas sans famille, mais disons sans origine particulière. La franc-maçonnerie peut expliquer cela. Peut-être aussi l'intelligence et la beauté de Decazes. Toujours est-il qu'il épouse cette jeune fille, qu'il perd un an après parce qu'elle meurt de tuberculose, et il va soigner son chagrin dans une station thermale dans les Pyrénées. Une station thermale avait toutes les vertus à l'époque. Et il y croise la reine de Hollande, qui elle-même soigne un chagrin, celui d'avoir perdu son fils aîné du croup. Les deux échangent leur chagrin. Les mauvaises langues disent qu'ils n'échangent pas que ça. Toujours est-il que grâce à la reine de Hollande, Decazes rentre dans le cercle de Louis Bonaparte, roi de Hollande. Et puis après Louis, il sera proche de Pauline, puis de Madame Mère. Donc il fait toute une carrière dans la famille impériale jusqu'en 1814.
Et vous utilisez une expression qui paraît totalement ajustée quand on vous écoute. Vous le considérez comme un personnage balzacien par son ascension? Est-ce qu'il a inspiré Balzac? Pourquoi vous le catégorisez ainsi?
C'est Rubempré pour la beauté, c'est Rastignac pour l'ambition. Mais en fait, j'ai cherché parce que je me suis dit c'est pas possible que Balzac ne se soit pas intéressé à Decazes. D'autant que Balzac a fait ses études 20 ans après Decazes au même endroit, c'est-à-dire au collège de Vendôme, qui était un ancien collège oratorien où il y avait eu avant Decazes un professeur qui s'appelait Joseph Fouché. Mais le personnage dont je pense qu'il est celui qui personnifie le mieux Decazes dans la comédie humaine, c'est Henri de Marsay, personnage un peu moins connu que Lucien de Rubempré et Eugène de Rastignac, mais personnage intéressant. Mais je pense aussi que bon, il y a un tas d'autres personnages qui ont pris à Decazes. Il y a Félix de Vandenesse, il y en a un autre dont on m'échappe pendant que nous parlons. Manifestement, Balzac s'est intéressé à Decazes, d'autant que Balzac a rédigé la plupart des mémoires de Lord Junot d'Abrantès, et que Lord Junot d'Abrantès avait connu Decazes dans l'entourage de Pauline Borghèse, et je pense qu'elle n'avait pas fait que le connaître dans les salons.
C'est ainsi que donc s'écrit un roman, on en aura appris un peu plus sur Balzac. Decazes devient donc magistrat. Et comment, alors vous l'avez bien dit, il n'est pas seulement favori, il a des réelles responsabilités dans le gouvernement autour de Louis XVIII. Il se retrouve appelé par Talleyrand pour devenir préfet de police. Comment est-ce que son nom est arrivé sur la table comme ça, des ministres, et pourquoi on l'a choisi lui?
J'avais lu un jour une citation du président Pompidou qui disait « Il faut savoir transformer un hasard en destin ». Dans le cas de Decazes, on est tout à fait là. Decazes cherche un poste. Il fréquente à ce moment-là la nièce du baron Louis, qui est le nouveau ministre des Finances de Louis XVIII. Et il espère fort, grâce à cette influence, pouvoir avoir un poste. Donc le baron Louis l'amène avec lui chez Talleyrand, qui est en train de composer son ministère. Talleyrand est très occupé, très énervé, parce que il lui manque un préfet de police. La personne à qui il pensait a fait défaut. Et donc il n'a pas de préfet de police, et il faut constituer le gouvernement, parce que le roi est à Cambrai, et il doit le rejoindre là pour lui présenter le gouvernement. Et là, le baron Louis dit « Mais nous avons Monsieur Decazes !» Decazes, qu'il était venu présenter la veille et auquel Talleyrand n'avait prêté aucune attention. Et Talleyrand dit « Mais c'est qui Decazes ? Qui c'est Decazes ?» Alors il y a Fouché, et là, il dit « Ah, Decazes, je le connais !» il est juge, il a bien fait des affaires, il a travaillé avec chez Madame Mère. C'est un bon garçon, il ne nous posera pas de problème. » Et voilà comment Decazes se retrouve préfet de police. Il a, à cette époque, il a 35 ans, il est jeune, et nous sommes d'ailleurs non pas en 1814, mais en 1815, parce que Decazes a aussi eu l'intelligence, pendant les 100 jours, de ne pas se rallier à Napoléon. Ce qui compte en 1815.
Qui prouve qu'il était un fin politique.
Et il comprend les choses. Son beau-père, Honoré Murer, lui, n'a pas eu cette sagesse.
Donc il se retrouve préfet de police, il est alors inconnu, puis il va remplacer Fouché. Pourquoi est-ce qu'il remplace Fouché?
Alors il remplace Fouché d'abord d'une première manière, c'est que il y a une histoire un peu sotte, c'est que on soupçonne que quelqu'un a voulu empoisonner le tsar de Russie qui est actuellement en France, puisqu'on est quand même dans un pays occupé en 1815. Et on envoie le préfet de police se débrouiller l'affaire, ce qu'il fait assez vite, en comprenant que tout ça était une histoire complètement absurde. Et donc, on lui demande d'aller en rendre compte au roi, parce que le Fouché sait très bien que Louis XVIII déteste le voir. Fouché est quand même un ancien régicide. Et donc, on envoie le jeune et beau Élie Decazes. Et Louis XVIII est absolument charmé, parce qu'il voit arriver quelqu'un qui est très beau, et manifestement, Louis XVIII est très sensible à la beauté des êtres, mais il est aussi sensible à leur intelligence, Decazes l'est, à leur bagout de 15 ans de nard.
C'est le gendre idéal, c'est ce que vous nous dites.
C'est un peu un gendre idéal, exactement. Un gendre idéal pour un homme qui n'a pas de fille. Decazes, lui raconte comment il a débrouillé l'affaire. Puis sans doute, ils doivent un peu parler de choses et d'autres. Alors, vous êtes préfet de police. Oui, oh, mais on apprend beaucoup de choses quand on est préfet de police. Decazes comprend sans doute assez vite que le roi ne dédaigne pas les ragots et les petites informations. Or, un préfet de police, c'est aussi celui qui peut décacheter les lettres. Donc le roi lui dit revenez donc, et Decazes revient, porteur d'anecdotes croustillantes sur la cour et la ville, porteur aussi d'anecdotes sans doute sur tout ce qu'il a vu pendant l'Empire et que Louis XVIII a certainement envie de savoir, et se crée ainsi un lien qui échappe à toutes les prévisions.
Oui, c'était pas du tout évident, parce qu'à l'époque, il est pas particulièrement gradé, reconnu, forcément dans sa fonction.
C'est un roturier, il n'est pas issu de l'émigration, il n'est pas particulièrement titré. Il faut savoir que, il est dans le ministère du prince de Talleyrand, qui est quand même, ce qu'on peut faire de mieux en matière de noblesse, et qui sera remplacé par le duc de Richelieu, qui est aussi ce qu'on peut faire de mieux. Decazes n'est qu'un obscur Robin, je le rappelle.
En introduction, vous citez Jacqueline de Romilly, qui dit au sujet de Socrate et d'Alcibiade, « Socrate et Alcibiade finissent étendus sous une même couverture sans qu'il se passe autre chose qu'un très noble entretien. » Et ensuite, vous filez la comparaison. Donc évidemment, il y a l'allusion à leur relation intime, mais pas seulement, également à la beauté. En quoi Alcibiade ressemble à Decazes ? Même si on peut douter que Louis XVIII ait les mêmes et les mêmes compétences intellectuelles que Socrate.
Ah, Louis XVIII, c'était pas un idiot. Hein. C'était quelqu'un c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais évidemment, c'était pas un grand philosophe comme Socrate. Je crois qu'il y a une séduction physique évidente. Physiquement, Louis XVIII pouvait rien faire. Hein, donc, si relation homosexuelle il y a eu, ce qui en fait m'intéressait pas tellement, je veux dire, ça ne peut pas être, ça n'a jamais été que platonique. Mais il est évident qu'il y a une séduction due à une personne qui a manifestement un grand charisme. Même les ennemis de Decazes, il en avait, reconnaissaient sa beauté. Donc, je veux dire, c'est quelque chose qui devait être particulièrement irradiant. Et puis, il est jeune, il a du bagout, et il faut savoir que Louis XVIII, c'est un homme qui n'a jamais eu d'enfant et qui quelque part a toujours cherché un héritier, ce qui n'était pas le cas dans l'amitié qu'il pouvait avoir avec Blacas ou avec Davaret avant. Mais il faut voir que Louis XVIII s'est formé un héritier dans la personne du duc d'Angoulême, son neveu, qui représente la génération suivante des possibles monarques. Avec Decazes, il a quelqu'un qui n'attend rien de lui, qui attend tout, puisque c'est quand même un roturier qui peut espérer avancer. C'est là où aussi il est balzacien, c'est quand même quelqu'un qui progresse dans la société. Et ce qui est amusant, c'est qu'en quasiment une année, il va passer de quelqu'un à qui on écrit « Monsieur le Préfet » à quelqu'un à qui on écrit « Mon ami » et à quelqu'un à qui on écrit « Mon fils ». Louis XVIII, un an après, écrit à Decazes en l'appelant mon fils, en le tutoyant et en lui parlant du comte d'Artois, son frère, comme de ton oncle, ou du duc d'Angoulême, neveu de Louis XVIII, comme ton cousin. Donc c'est vraiment devenu le fils que Louis XVIII aurait rêvé avoir, et le fils qu'il forme dans les lettres que Louis XVIII envoie quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, à Decazes, il y a la vraie formation d'un homme à la politique. Decazes, c'est aussi, il y a quelque chose de Pygmalion là-dedans. C'est-à-dire, Decazes est aussi la création intellectuelle d'un roi qui veut former un ministre qui lui succédera. Moi, j'ai toujours pensé que Louis XVIII rêvait d'un gouvernement où il y aurait le duc d'Angoulême comme Louis XIX comme roi, et Decazes comme Premier ministre et que les deux seraient l'équivalent de Louis XIII et Richelieu.
Richelieu, venons-en.
Un autre Richelieu.
Un autre Richelieu, lui, il est président du Conseil et il accepte Decazes. Ça ne le dérange pas forcément que Louis XVIII se trouve en favori.
Non, ça ne le gêne pas, ça l'arrange même plutôt. Richelieu, c'est une belle personnalité, il y a un très beau livre d'ailleurs sur Richelieu, d'Emmanuel de Varesquiel. C'est un grand aristocrate qui ne connaît plus très bien la France parce qu'il a été émigré pendant 25 ans, qu'il a bâti le port d'Odessa. Quand il revient en France, son premier souci, c'est d'abord s'occuper d'affaires étrangères, qui sont aussi des affaires domestiques, puisqu'il faut quand même savoir qu'on a à peu près 1,5 million de soldats étrangers qui occupent la France, des Russes, des Autrichiens, des Prussiens. Et qu'il faut arriver à s'en débarrasser, ce qui sera le cas en 1818. Et donc Richelieu se concentre essentiellement sur les affaires étrangères, et il laisse à Decazes plutôt les affaires internes, et il lui laisse surtout les rapports avec le roi, parce que Richelieu n'a pas du tout l'âme d'un courtisan, se rend parfaitement compte que Louis XVIII a besoin d'un favori, et comme il s'entend très bien avec Decazes, ils ont d'ailleurs, ce qui est amusant, une petite incidente, mais ils ont des liens d'affaires quelque part, puisque la famille Decazes, sous l'Empire, a racheté des biens nationaux qui étaient en fait les anciennes propriétés du duc de Richelieu, mais que celui-ci, avec la grande noblesse qu'il caractérisait, a toujours refusé de récupérer.
Richelieu donc s'occupe plus des affaires extérieures. Et Decazes s'occupe de la politique intérieure. Alors à l'époque, il y a quand même plusieurs courants politiques. Lui, où est-ce qu'il se situe entre les ultras et les libéraux ? Est-ce qu'il est plutôt républicain ? Qu'est-ce qu'il veut promouvoir comme politique ?
Alors d'abord, il veut promouvoir la politique de Louis XVIII, parce que c'est vraiment... Il y a une pensée de Decazes, mais c'est une pensée politique qui est aussi celle de Louis XVIII. Et le souci de Louis XVIII, c'est absolument d'éviter de voir la France entraînée vers un extrême. Or, il faut savoir qu'au début de la Restauration, en 1815, la Chambre est la Chambre dite introuvable, parce que c'est une Chambre, comme on a assez souvent après des crises, ultra-majoritairement de droite, dans le sens ultra, mais trop, parce que les ultras, s'ils s'appellent comme ça, c'est qu'ils se sentent plus royalistes que le roi. Ils veulent aller plus loin que le roi ne veut aller. Ce qui ne fait pas les affaires de Louis XVIII et ni celle de Decazes, qui a plutôt une politique centriste. On peut dire que Decazes, c'est le premier homme politique centriste qui va donc essayer de gouverner en rejetant les ultras vers la droite et les libéraux vers la gauche, en essayant de ramener vers lui les plus modérés des deux camps. Mais les libéraux, c'est assez vaste, parce qu'il y a des libéraux qui sont quasiment républicains, il y a des libéraux qui peuvent être plus rapprochés. Et donc le rôle de Decazes, c'est d'essayer de gouverner au centre, dans ce qu'on a appelé sous la monarchie de Juillet le juste milieu.
On lui prête cette phrase « royaliser la nation et nationaliser le royalisme », ce n'est pas une mince affaire. Qu'est-ce qu'il entend par là et en quoi cette espèce de maxime s'applique à son ministère et à sa manière de gérer les affaires ?
Ben, royaliser la nation, ça peut paraître un peu absurde alors qu'on est en monarchie, mais il ne faut pas oublier qu'en 1814, ça fait 23 ans qu'il n'y a plus de monarchie, et 25 ans que le roi a perdu quasiment tous ses pouvoirs. Donc il s'agit de ramener un pays qui a un peu oublié tout cela vers le sentiment monarchique, donc d'essayer de convaincre le pays qu'on peut vivre dans une monarchie qui n'est pas encore la monarchie à l'anglaise, c'est-à-dire où le roi règne mais ne gouverne pas, mais une monarchie où tous les partis en présence accepteraient la présence du monarque et accepteraient donc que le monarque, à l'époque, gouverne quand même, puisque Louis XVIII n'a absolument pas l'intention de ne pas gouverner. Mais il veut gouverner sans avoir en face de lui une opposition qui pourrait mettre en péril son trône, puisque tout le souci aussi de nationaliser la monarchie, c'est de faire que la monarchie soit acceptée par la nation comme étant partie prenante du gouvernement.
Est-ce que on connaît, on suppose qu'il existait des désaccords politiques entre Decazes et Louis XVIII? Est-ce qu'on a des preuves de désaccords politiques? Est-ce que Decazes osait dire à Louis XVIII quand il n'était pas d'accord, ou il préservait avant tout les projets du roi et se soumettait un petit peu à la direction et au projet royal?
J'ai pas ce sentiment. Peut y avoir à un moment des échanges où ils ne sont pas d'accord sur certains points, mais c'est pas des points essentiels. Il y a une vraie osmose entre les deux. C'est ça qui est très très curieux dans l'histoire de Decazes. C'est que cet homme, qui je pense n'était pas particulièrement royaliste quand il est arrivé aux fonctions qui étaient les siennes, ça restait un ambitieux qui avait envie de faire carrière, a été complètement fasciné par la personnalité de Louis XVIII, personnalité qui est, je dois le dire, extrêmement fascinante. Et il s'est vraiment dévoué corps et âme au roi. Donc, il a plutôt suivi ce que le roi lui conseillait. Il a aussi conseillé au roi qu'il a lui-même suivi. Je veux dire, la correspondance telle qu'on peut la connaître, qui a été publié par Ernest Daudet au début du XXe siècle, montre quand même une parfaite parenté intellectuelle à partir du moment, je le répète, où le roi a un peu formé les opinions de Decazes, qui au début n'en avait pas beaucoup. Mais en même temps, est-ce que Decazes a un système politique? Guizot, qui était un de ses proches collaborateurs, l'accusait un peu de n'avoir pas de système, c'est-à-dire d'être aussi quelqu'un qui s'adaptait plutôt aux circonstances, ce qui n'est pas faux dans l'évolution politique, puisque il faut savoir qu'à l'époque il y a un système qui est complètement absurde, c'est qu'il y avait il y avait des élections législatives tous les ans, puisqu'on renouvelait la Chambre par cinquième, ce qui veut dire que chaque année il y avait un cinquième des députés qui changeait, ce qui veut dire qu'on était en campagne électorale quasiment permanente. Ça touchait pas beaucoup de monde, puisque le suffrage était censitaire et qu'il y avait peu d'électeurs. Mais néanmoins, chaque année, on ne savait jamais avec quelle majorité on allait se retrouver. Sauf que la tendance montrait que les ultras avaient été soigneusement écartés, mais que les libéraux grignotaient chaque année. Et donc, à un moment, en 1819, Decazes se rend compte que si on veut continuer à gouverner au centre, il va falloir basculer, et qu'après avoir tout fait pour que les ultras perdent leur influence majoritaire, il va falloir se rapprocher d'eux pour contrebalancer la montée des libéraux. C'est la situation à laquelle on est en 1819.
Avant, donc en fin 1818, Richelieu quitte le gouvernement et le préfet de police Pasquier s'exprime ainsi en parlant de Decazes. Tout lui réussissait. L'attachement que le roi lui portait se manifestait en toute occasion. Sa majesté descendait avec lui jusqu'au plus petit soin. De continuels messages venaient le chercher dans une petite maison de campagne située au milieu du bois de Boulogne où il s'était établi pour la fin de la belle saison. Monsieur Decazes peut dire avec vérité que, de cette petite maison, il a régné pendant 3 mois sur la France. Est-ce que c'est vrai ou c'est un petit peu exagéré ?
Ah, c'est Pasquier est un homme extrêmement curieux dans ses rapports avec Decazes. Il est à la fois jaloux et en même temps c'est un ami. Ils sont comme des aimants qui s'attirent et qui se repoussent. Quand il a écrit ça, on sent un agacement, peut-être justement sur ce pouvoir qu'avait Decazes.
Il est sarcastique.
Decazes n'a pas régné pour la seule et bonne raison que Louis XVIII était quelqu'un qui était parfaitement imbu de son pouvoir et des prérogatives qui étaient les siennes. Et c'est quelqu'un qui, s'il déléguait beaucoup de choses à Decazes, avait quand même parfaitement conscience de ce qui était bon ou important pour le pays. En 1818, quand Richelieu part, il part au terme d'une crise, et une crise qui commence d'abord par la quasi-éviction de Decazes, c'est-à-dire que Richelieu met comme condition à son maintien au pouvoir que Decazes soit envoyé en ambassade à Saint-Pétersbourg. Et Louis XVIII lui-même lui dit que ça le déchirerait si Decazes s'en allait, mais que tout valait mieux que de perdre Richelieu. Donc Louis XVIII savait parfaitement faire la balance entre ses intérêts affectifs et ce qui était bon, à son sens, pour la France. Et à son sens, Richelieu était bon pour la France. In fine, Richelieu décide de ne pas rester, mais Decazes refuse lui aussi de rester, et Louis XVIII le supplie de rester, mais ne le nomme pas président du Conseil, parce que on pense que un Decazes ne peut pas succéder à un duc de Richelieu. Et donc il faut trouver quelqu'un, et on a du mal à le trouver. Et on cherche dans les militaires. C'est curieux, toujours chercher les militaires. Donc on pense à Marmont, on pense à MacDonald, mais ça colle pas pour diverses raisons. Et finalement, on choisit quelqu'un que je qualifierais presque d'homme de paille, qui est le général de Sol. Et le général de Sol devient président du Conseil, en charge des affaires étrangères, sur lesquelles il n'a aucune compétence particulière. Mais enfin, c'est un général d'empire, donc ça peut faire.
Il a au moins la prestance.
Il a au moins, il a de l'allure, il a du. Mais derrière, c'est Decazes qui va effectivement tirer les ficelles du gouvernement pendant un an, parce qu'in fine, ça va finir par craquer.
Et Decazes quitte et renvoyé peu de temps après, puisque c'est lors de l'assassinat, enfin juste après l'assassinat du duc de Berry, donc le neveu de Louis XVIII, qu'il est renvoyé. Pourquoi cet assassinat a joué à ce point-là dans la carrière de Decazes ?
Alors ça, c'est un moment absolument fascinant. Decazes est enfin, depuis novembre 1819, président du Conseil. Tout semble lui réussir et en même temps tout lui échappe parce qu'il veut faire une réforme électorale qui va permettre de conforter le pouvoir face aux libéraux, mais son ministre de la Justice, Hercule de Serres, tombe malade, lui-même souffre une espèce de grippe dont il n'arrive pas à se sortir, donc rien n'avance vraiment, ils sont en train de préparer la loi. Quand, au sortir de l'Opéra de Paris, le duc de Berry est assassiné. Et ils vont se passer 10 jours absolument hallucinants, où, alors que les ultras politiquement ne pèsent rien, au terme de ces 10 jours, ce sont les ultras qui vont se retrouver au pouvoir et qui vont chasser Decazes. L'assassinat du neveu du roi tétanise le pays, qui se sent revenu vers les heures les pires de la Révolution. On accuse les libéraux d'avoir armé le bras de Louvel, l'assassin, et on accuse le président du Conseil, par ailleurs ministre de l'Intérieur et donc de la police, de n'avoir pas pu empêcher le crime. Ça, c'est pour les plus modérés des attaquants, voire de l'avoir inspiré. Et donc, tout va se conjuguer pour chasser Decazes. Il y a quand même une scène qui est absolument hallucinante où le roi se retrouve avec son propre frère et héritier, sa nièce, la duchesse d'Angoulême, à genoux devant lui pour lui supplier de bien vouloir chasser Decazes. Et ce qu'in fine le roi va faire, Et il faut trouver un successeur, et là, monsieur, le frère du roi, qui n'est pas à une génuflexion près, va se mettre à genoux devant le duc de Richelieu pour le supplier de revenir au pouvoir pour succéder à Decazes. Et Decazes est envoyé en ambassade, excellent moyen de faire partir les gens loin de France. L'ambassade de Saint-Pétersbourg n'est plus libre, on l'envoie en Angleterre. Et c'est comme ça qu'en 10 jours, Decazes perd tout. Socialement, il ne perd rien, puisque à cette occasion, le roi qu'il avait fait comte en 1817 le fait duc, et donc il devient duc Decazes.
Et ça sonne très bien.
Ça sonne très très bien.
Il a 40 ans à ce moment-là.
Il a 40 ans pile.
Donc il est très jeune. Et ce qui est agréable dans votre ouvrage, c'est que vous ne vous concentrez pas uniquement sur le moment où il est proche du roi, mais vous consacrez une partie à sa jeunesse et puis la troisième partie à sa vie qui suit, en fait, son renvoi. Il est plein d'énergie de cases et c'est un notable de cette période-là. Il se lance dans les affaires. Alors, est-ce que c'est un industriel ? En quoi c'est un bon industriel ? Et il s'occupe aussi des affaires agricoles. Est-ce qu'il a innové ? Et qu'est-ce qu'on lui doit aujourd'hui ?
Alors, c'est ça qui est très, très amusant, c'est qu'effectivement, chose qui a été peu abordée par les très rares biographies de Decazes, c'est les 40 dernières années de sa vie. Parce que sa montée au pouvoir, ça dure 5 ans. Il en est chassé à 40 ans, il meurt à 80 ans. Donc il reste 40 ans où il va s'occuper. Il ne va jamais revenir au pouvoir. Et il va chercher à faire autre chose. Sachant que avec la mort de Louis XVIII en 1824, l'arrivée sur le trône de Charles X, il est quasi pestiféré en politique. C'est-à-dire, c'est vraiment, il continue à être plus l'homme à abattre. Il a été abattu, mais celui qui subit des vexations, etc.
Oui, il dit que quand il est à Paris, on lui demande de partir, et quand il est parti,
Et puis on lui refuse des invitations chez le préfet. Enfin, c'est un ostracisme médiocre. Et il va s'intéresser à deux choses. Il va s'intéresser à l'agriculture, parce que grâce au cadeau du roi, il a pu constituer un assez joli patrimoine foncier dans la région de Libourne et en Charente. Il va s'intéresser à l'agriculture, faire beaucoup d'expérimentations, plus ou moins hasardeuses et qui ne vont pas le mener à la fortune. Et puis surtout, il a appris de son ambassade en Angleterre que ce qui marchait en Angleterre, c'était la sidérurgie et les mines. Il va donc chercher un endroit où l'on puisse trouver à la fois des mines de charbon et des mines de fer. Pourquoi les deux à la fois ? Bah parce que ça permet d'extraire le charbon qui va permettre le travail du fer et donc de créer une industrie sidérurgique en ayant toutes les matières premières à disposition. Et donc il va les chercher dans l'Aveyron. Et il va trouver beaucoup de mines. Et donc en 1826, il crée avec quelques investisseurs, des pairs, tout un petit personnel politique assez important, il crée la société des forges de l'Aveyron, les forges des fonderies de l'Aveyron, dans un petit endroit qui s'appelle La Salle, et qui, d'un petit hameau, va devenir une ville d'à peu près 4000 habitants, à laquelle les actionnaires de la société décident de donner le nom de Decazesville. Donc on est dans un cas où on a un homme qui a donné son nom à une ville, ce qui doit être peu ou prou un des seuls cas en France, où d'habitude c'est les villes qui donnent leur nom à des hommes. Et Decazesville a été une des grandes industries sidérurgiques du 19e siècle, puisque son fer avait une particularité, c'est qu'il était absolument idéal pour faire des rails de chemin de fer. Or, le chemin de fer, c'est un essor qui va de la monarchie de Juillet jusqu'au Second Empire. Et c'est notamment à partir des années 1840 que les forges de Decazesville vont marcher extraordinairement et s'avérer très très lucratives pour leurs actionnaires. Seul petit problème, Decazes, qui est un homme à qui l'argent file entre les doigts, qui a tendance à dépenser plus qu'il ne gagne, n'en bénéficiera pas véritablement. Parce que il a entre-temps, à un moment que j'ai pas pu déterminer, parce que malheureusement, dans les archives de Decazeville, il y a une période qui manque dans les PV des assemblées générales qui tiennent le compte précis des actions des actionnaires, et il y a 20 ans de PV qui n'existent pas, c'est juste cette période. Toujours est-il que Decazes va toucher moins de dividendes, mais qu'il sera jusqu'à quelques mois avant sa mort, toujours extrêmement présent et très actif comme président de cette société des Forges de l'Aveyron.
On peut dire que c'est un entrepreneur de cette période-là.
Ah, c'est un vrai capitaine d'industrie, absolument.
Alors, vous consacrez un chapitre à sa carrière dans la franc-maçonnerie, puisque Decazes a aussi fait carrière dans la franc-maçonnerie. En quoi, donc, il est fait souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France du rite écossais ancien et accepté. Vous allez nous expliquer exactement à quoi renvoie cette fonction et en quoi cette appartenance a influencé sa carrière.
Alors, est-ce que ça a influencé sa carrière? Je ne sais pas. Parce que je vous dis, je ne sais pas si il a épousé sa première femme parce que il était franc-maçon comme son beau-père, ou s'il est devenu franc-maçon parce que le père de sa femme l'était. Et Honoré Murer était un des grands dignitaires de ce rite écossais ancien et accepté. Il faut savoir qu'il y a deux grandes familles dans la franc-maçonnerie au 19e, aujourd'hui encore. L'une qui est le Grand Orient de France, dont le grand maître est Joseph Bonaparte, et qui a été vraiment une des grandes institutions sous l'Empire. Et après l'Empire, le grand maître est toujours Joseph Bonaparte. Les royalistes ont essayé à un moment de le faire remplacer. On a pensé au duc de Berry, puis finalement ça s'est pas fait. Donc on a toujours un grand maître. Donc au-dessous de ce grand maître, on a un grand maître adjoint qui gère les affaires courantes. Mais avec le retour du roi en 1814, puis en 1815, le Grand Orient est un peu délaissé, puisqu'il est un petit peu trop marqué franc-maçonnerie impériale, au profit d'une autre obédience, qui est donc ce rite écossais. Qui a une histoire extrêmement complexe que je ne résumerai pas, que je détaille dans un chapitre de mon livre, parce que ce rite écossais fait l'objet aussi de scissions, de difficultés. On évince le grand maître, on le remplace. Enfin, tout ça est assez compliqué.
C'est le reflet de la vie politique.
C'est un peu le reflet de la vie politique, mais c'est aussi le reflet d'une personnalité assez tranchée du grand maître fondateur de ce rite. Et toujours est-il qu'en 1819, Decazes en est nommé grand maître, et il aboutit à refonder dans le rite, dans cette grande ce suprême conseil, deux suprêmes conseils qui étaient issus de scissions. Et il y a une très jolie médaille qui est offerte au roi Louis XVIII par toute une délégation du suprême conseil animée par Decazes. Et puis, ayant fait ce rôle, en fait, il va abandonner ses fonctions qui vont être assurées par d'autres souverains grands commandeurs, jusqu'en 1836, où on va lui demander de reprendre ses fonctions et qu'il va assumer jusqu'à sa mort en 1860. Avec une obédience qui a un certain succès jusqu'en 1848, où elle va quasiment s'effondrer. Parce que c'est une obédience qui, à la différence du Grand Orient, est quand même très aristocratique, très élitiste, avec tout un système de grades, puisqu'il y a 33 grades dans le Suprême Conseil, alors que normalement il n'y en a que trois au Grand Orient. Avec le Grand Orient, la devise du Grand Orient, c'est tout de même à l'époque liberté, égalité, fraternité, et que le Suprême Conseil, le concept d'égalité était un peu à la George Orwell. Tout le monde était égaux, mais enfin quand même certains l'étaient un peu plus que d'autres, notamment Decazes.
Hormis les archives familiales et les deux ouvrages sur Ernest Daudet, et Roger Langeron, où sont les principaux fonds sur lesquels on peut comprendre un petit peu et avoir des informations sur la vie de Decazes ?
Bah, d'abord dans les mémoires des contemporains. Il faut savoir que la Restauration est une période étonnante que l'historiographie a longtemps négligée, mais que les mémorialistes, eux, n'ont pas négligé. Parce que, effectivement, comme avec la monarchie de Juillet, et puis la Deuxième République, etc., tout le personnel de la Restauration s'est retrouvé au chômage. Il avait du temps pour écrire et pour justifier son action, ce qu'il a fait. Ce que n'a pas fait Decazes, il semblerait qu'il y ait dans les archives familiales des débuts de mémoire de Decazes, mais malheureusement, les archives familiales ne sont pas accessibles. Elles l'ont été, elles ne le sont plus. Donc il faut chercher ailleurs. Decazeville, j'ai beaucoup trouvé de choses aux Archives nationales du monde du travail à Roubaix, où il y a toutes les archives des assemblées générales, sauf une certaine période, les archives du conseil d'administration, tous les PV. Donc c'est vraiment beaucoup de choses qui m'ont donné énormément de choses. Il y a beaucoup de choses aussi aux archives du Sénat, puisque Decazes a été un personnage extrêmement important de la Chambre des Pairs sous la monarchie de Juillet, où il a été nommé grand référendaire. Alors, le grand référendaire, c'est le numéro 2 de la Chambre. C'était l'homme qui s'occupait de la gestion de tout ce qui était financier derrière le président. Le président, c'était Étienne-Denis Pasquier. Decazes était donc grand référendaire, ce qui avait l'avantage d'être un poste assez lucratif, nécessaire à Decazes, dont les investissements à cette époque n'étaient pas assez lucratifs. Et Decazes est l'homme qui a fait du Palais du Luxembourg, le Sénat actuel, le bâtiment que nous connaissons, puisque c'est lui qui l'a entièrement fait reconstruire, fait construire la salle des séances telle qu'elle est connue aujourd'hui, qui a aussi créé le jardin du Luxembourg, qui n'est pas celui qu'on connaît parce qu'il était un peu plus grand, mais dans lequel il s'est aussi livré à une de ses passions, qui était l'horticulture. Aux archives du Sénat, j'ai trouvé pas mal de choses aussi sur ce rôle important de Decazes. Et puis, il y a aussi aux archives nationales, il y a des fonds privés, notamment les archives de Guizot, dans lesquelles on trouve beaucoup de documents copiés de documents prêtés par Decazes. Il faut savoir que Decazes a beaucoup ouvert ses archives à tous les historiens de l'époque, que ce soit Lamartine, Vielle-Castel, Duvergier de Haurane, donc dans tous les grands livres écrits par ces historiens, on trouve beaucoup de documents qui viennent directement de Decazes.
Merci beaucoup, François Coustin. Je rappelle que vous avez publié donc une biographie, la troisième biographie.
La troisième, mais je pense la première vraiment complexe.
La seule biographie à lire sur Élie Decazes, Le Dernier Favori, aux éditions Perrin. Et une fois n'est pas coutume, mais j'aimerais dédier cette émission à Jean-Baptiste, grand amoureux de la Restauration. Je vous remercie, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce. Les grands entretiens de Storia Voce.